France Culture.
Heures du matin hier à Mayotte, les fenêtres de cet hôpital cèdent. Le vent détruit tout le matériel médical.
Sur ces trottoirs de débris, l'impuissance des habitants. Mayotte, dévastée par le cyclone Chido.
Il n'y a plus de maison. Chido a tout pris.
À Mayotte, 100 000 personnes vivent dans des constructions précaires, des habitations balayées en quelques heures, comme dans le quartier de Kaweni, presque totalement détruit.
Pour parler, si quelqu'un m'a entendu dire tout va bien, levez le doigt. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Donc, moi je vous dis, tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau, et n'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutu, parce que vous êtes content d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, on ne peut pas vouloir être un département français et dire que ça ne marche pas dès que la France est en solidarité. Alors, il faut que tout le monde se respecte.
Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe.
Mayotte, dernier des départements. Troisième épisode, de tôles, de briques et de bambous. Un documentaire de Raphaël Kraft et David Jakubowiez.
En arrivant ici, j'ai une passion, c'est le dessin. Alors, c'est ce qui m'a en partie amené évidemment à faire de l'architecture.
Vincent Liétard, architecte.
Et du coup, ce petit Bao, c'est un enfant que j'ai mis en page, notamment pour un peu me moquer de l'attitude Zungu, qui observe avec étonnement, parfois ravissement et parfois même dégoût.
Mzungu, c'est le blanc, le métropolitain.
Ça, l'étranger, le blanc, qui ont une attitude parfois un peu condescendante ou un peu décalée, allez, soyons plus sympas. Et Bao leur renvoyait cette espèce d'image. Lui, il observait à son tour parfois des attitudes qu'il trouvait justement décalées.
Bao, c'est votre héros.
C'est ça, oui. C'est un autre moi-même, un peu plus rigolo et un peu plus libre peut-être en parole.
Et en arrivant ici, vous nous avez montré un dessin qui s'est retrouvé entre les mains du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui résume, selon vous, la situation. Vous pouvez nous le montrer et nous le décrire?
Oui, alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'écrits, de propos, de... certains diraient de blabla, sur la reconstruction, les méthodes, ce qu'il faut pour Mayotte, etc. Et là, j'ai fait un petit dessin où Bao, il est en train de finir son toit sur son banga dans le dessin. Et autour de lui, il y a tout un équipage de spécialistes qui observent, qui notent. Certains hélicoptères amènent déjà des logements et des boîtes à habiter toutes faites, qui vont bientôt déposer. Le cyclone s'éloigne. Il est au bout de l'horizon, là. Et déjà, les réponses toutes conventionnelles qu'on sait mettre en œuvre quand on vient de métropole, il les regarde avec dérision et Bao dit « Je termine mon toit vite fait et je leur donne un coup de main, les pauvres, parce qu'ils ont l'air complètement paumés avec leur solution décalée. »
Moelle comme la paille galère, le vent y emporte à moi. Même dans ton cyclone, mon cœur y saute pas. Le vent y emporte à moi. Grand volcan et ses brûles à moi. Le vent y amène à moi. Même dans ton cyclone, mon cœur y saute pas. À moi.
Encore. Ici, nous avons un chemin qui est plutôt bien aménagé parce que voilà, les marches sont en béton.
Bidonville de Kaweni Bandrajou.
Donc voilà, plus on monte, plus les pentes sont raides.
Idaroudit Simanda Fahad, géographe.
Donc ici, à part les sacs remplis de galets ou des pierres, nous avons aussi des pneus qui permettent de stabiliser en fait ces petites ruelles, ces vénelles. Donc ici nous avons une ancienne mosquée de ce bidonville. Avant c'était une fondation en béton. Et voilà, l'ensemble de la mosquée a été construite en tôle. Mais suite au passage du cyclone Chido en 2024, les tôles ont été toutes emportées. Donc les habitants ici essaient de penser autrement. Comment faire en sorte que la future mosquée ne soit plus vulnérable. Donc ils ont fait le choix de construire cette mosquée en parpaing.
Il y a un contraste entre la précarité des habitats que l'on vient de traverser et...
Cette future mosquée. Effectivement, je pense ici c'est l'œuvre de plusieurs personnes. Parce que voilà, c'est une mosquée qui va bénéficier à l'ensemble des habitants. Donc chacun apporte ses moyens, ce qui fait que voilà, les familles ont réussi à cotiser et à construire voilà, une mosquée qui est en parpaing. Du coup, la force de tous ces habitants-là a fait qu'ils ont réussi à mettre de l'argent et à construire une mosquée plutôt solide.
Et cette mosquée assez vaste pourrait faire office d'abri en cas de cyclone.
Oui, effectivement, mais l'espace présent pour la prière n'est pas assez grand, donc les personnes pourront venir trouver refuge ici, mais ce n'est pas tout le monde en fait.
Alors il y a l'aléa climatique auquel pourrait répondre potentiellement cette mosquée en construction, mais peut-être pas à l'aléa sismique.
L'aléa sismique, parce qu'il faut savoir que depuis 2018, suite à l'apparition du volcan sous-marin au large de Mayotte, et le magnitude le plus fort a été enregistré peut-être en 2019, 5.8. Donc voilà, ce sont des constructions qui ne sont pas parasismiques, en tout cas comme 99% des constructions ici à Mayotte. Hein. Du coup, oui, en cas de séisme, ici nous sommes sur une pente, et, bien évidemment que oui, s'il y a un séisme très très fort, ça ne résisterait pas du tout.
Vous êtes géographe, docteur en géographie, Fahad, spécialiste des aléas, des risques. C'est quoi les risques ici ?
Les risques ici, en fait, c'est des glissements de terrain, des crues, en fait, des inondations, des débordements de cours d'eau. En plus des risques qui sont présents ici, parce que voilà, le risque, la définition du risque, en fait, c'est aléas plus enjeux. Du coup, les aléas ici, aléas cycloniques, aléas sismiques, souvent en plus de ces multiples risques, la population doit aussi faire face à des problèmes de précarité. Ce qui fait que ça peut être un gros gros problème en cas d'évacuation.
Et un aléa qui ne rentre peut-être pas dans votre champ d'étude, c'est la peur d'être arrêté par la police aux frontières et d'être envoyé aux Comores.
Effectivement, parce que ça c'est une information que j'ai oublié de mentionner. Beaucoup de personnes en fait ont peur d'aller en ville parce que il y a la peur des autorités. Donc vivre caché, mais c'est vivre aussi de façon très très exposée aux aléas naturels.
Et votre prénom, c'est
Djabir.
Ravi, on vous appelle, c'est ça?
Ravi, c'est une note de YouTube.
Est-ce que vous êtes chanteur?
Actuellement, oui. Je chante depuis 2016. C'est maintenant que, les gens écoutent beaucoup ma musique, quoi.
Et donc, on est dans le bidonville que je visite avec Fahad. Et là, on est chez vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre maison?
C'est une maison de tôle.
Double tôle.
Double tôle, du coup...
C'est une pièce.
Ouais.
Une pièce qui sert à la fois de dortoir, c'est ça? Mais en même temps, j'ai vu que tu as acheté...
Oui, j'ai acheté parce que je ne voulais pas que, deux fois, ça va être chaud. C'est pour ça que j'ai mis le plafond, là.
D'accord.
Vous avez installé du contreplaqué pour lutter contre la chaleur de la tôle, c'est ça?
Ouais.
Là, il est presque 11h et on sent déjà la chaleur ici. Ouais. Du coup, ravi.
C'est quand même plus frais ici que dans les autres maisons qu'on a visitées.
C'est ça. Du coup, Jabir a eu l'ingénieuse idée de mettre du contreplaqué, ouais, oui, ouais, pour lutter contre la chaleur. Le sol n'est pas encore bien aménagé parce qu'il faut savoir que Jabir, son ancienne maison, a été emportée par le cyclone. Du coup, c'est une personne très, très résiliente parce qu'aussitôt, il a réussi à reconstruire sa maison.
Jabir, quand est-ce que vous avez commencé à habiter dans ce bidonville?
2018.
Après un décasage, c'est ça? Ah. Comment ça se passe, un décasage?
Décasage,
c'est dur qu'un cyclone.
C'est plus dur qu'un cyclone, dit votre ami.
On a vécu là-bas. Moi, j'étais encore un gosse, mais c'était dur. J'avais 13-14. Mais c'était dur pour nous parce que... comment on explique? C'est mort ou coup. Mais la nuit, on nous a dit que demain, on va nettoyer le quartier.
C'était vers le soir, quoi, qu'ils sont venus. Après, c'est là que, voilà, ils ont envoyé tout, la police, la PAF. Ils sont venus dans le quartier. Après, ils prennent le gens pour envoyer un Anjouan, quoi.
Ah, Anjouan, à l'île d'Anjouan, dans les Comores, oui.
Ah, l'île d'Anjouan.
Et donc, la gendarmerie, la police sont arrivés. La PAF a arrêté autant de personnes qu'elle pouvait. Et vous êtes échappé?
Oui. Là, au début, là, j'étais au lycée, j'étais en première au moment. Okay. Mais moi aussi, je suis échappé, quoi. Parce que je ne voulais pas que je vais aller en Anjouan. Ils ont pris la majorité des gens, des femmes, des enfants. Après, voilà. Le reste, mais ils sont échappés, ils sont partis. Il y avait aussi la machine qui sont venues dans les quartiers. Du coup, ils ont dégazé directement, quoi.
La machine, c'est les bulldozers.
Ouais.
Et alors après, comment ça se passe puisque vous n'avez plus de maison? Où est-ce que vous allez?
On a fait 3 mois pour dormir dehors. Dans la rue, quoi. C'est pour ça qu'on a décidé de venir dans ce quartier. On va construire notre maison, quoi. Parce qu'on voit que il y a des enfants qui sont à l'école, qui sont perdus à l'école, quoi. Il va transférer là-bas, c'est pas bonne idée, quoi. Du coup, c'est très, 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 très important. Et pourquoi? Mais ils respectaient pas, quoi. Parce que c'est l'État qui s'est envoyé la PAF. Les petits qui sont à l'école, faut que l'État respecte les gens comme ça, quoi. Parce que c'est leur avenir, quoi.
Pourquoi les habitants de Sogea qui ont été décasés sont venus s'installer ici spécifiquement?
On n'avait pas d'endroit où aller.
On a dit qu'ici, il n'y a pas de maison, du coup...
Ici, dans ce quartier-là, dès qu'on est venu ici, il y avait des chiens, des serpents, il y avait beaucoup des animaux qui... Je ne sais pas comment on dit, mais...
Des animaux sauvages et...
Si. Ouais. Mais on est venu ici, on s'est débarrassé, et puis on s'est installé.
Votre prénom, c'est?
Moi, c'est Elhad.
Qu'est-ce qui rend la vie difficile ici?
C'est à cause de l'eau.
Parce qu'il faut aller la chercher.
Il faut aller la chercher très loin pour venir ici, très très loin. Et nous, on habite dans les hauteurs. C'est difficile pour nous. Mais il faut l'accepter parce qu'on n'a pas d'autre endroit pour y aller. C'est pour ça.
Et vous, votre situation administrative, quelle est-elle?
Non, en fait, la majorité des gens... Dans ce quartier, il n'y aura pas de papier. C'est pour ça que nous, on a désinstallé ici. Il y a la majorité qui sont de papier. Comme moi, mais j'ai une carte de séjour.
Okay.
Après, j'ai travaillé Colas, quoi.
Colas, c'est une entreprise de...
Colas Route, c'est un truc de travaux publics, quoi.
Ok, d'accord. Et en même temps, vous êtes chanteur?
Ouais. J'ai décidé d'être chanteur parce que je voulais connaître d'autres choses, quoi.
Vous pouvez me chanter, là, a cappella, ce que vous m'avez fait écouter en arrivant?
Je peux commencer?
Oui.
Nyanzo za turufanya ujama, wamina werizana mwana, asibu hika mwensiona, roho yangu ukavuangina, nyura za tukweli zilingana, mauku nto katuna wawi, anita matoni nsiona, taona mzuri rana wawi, bie majuli, anita wawene mzuri, roho yangu tisina wavili, Nito wira telefoni. Merci.
Ça parle de quoi?
Cette musique, ça parle d'amour. Toute ma musique, ça parle d'amour. Ça parle d'un truc en couple ou voilà. Mais celle-là, ça parle de vrai amour. Parce qu'avant, j'étais avec une copine, quoi. Deux fois, je les vois, son caractère, que voilà, il est bizarre. Après, j'ai choisi d'aller chanter pour faire écouter, pour savoir que voilà, toujours mais moi, je l'aime, quoi. Après, il n'y a pas d'autre, il n'y a que elle, quoi, que je le pense, il n'y a pas d'autre. Mais lui, il ne me croit pas, quoi.
Détachant les amarres, étirant les distances, forçant la barrière de corail, l'océan inlassable reflue vers le rivage. Audi, je peux entrer ? Entrer dans l'île de Mayotte, perdue dans l'océan Indien entre les côtes africaines et malgaches. Mayotte, mouton bleu qu'aucun chien de berger n'a su ramener au sein de l'archipel des Comores. Mayotte, 40 km de long, 10 km de large, 50 000 Maorés pêcheurs, agriculteurs, qui dans 20 ans seront 100 000.
Vincent Liétard, vous êtes architecte, vous arrivez en 1980 à Mayotte, service civique. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici ?
Le service militaire était obligatoire à l'époque. Et j'ai appris qu'il y avait un poste assez original d'architecte sur un début de programme d'habitat. On disait aux Comores à l'époque, à Mayotte en particulier. Et ça avait l'air d'être vraiment... une espèce d'aventure. Bon, c'est ça qui m'a intéressé ou attiré plutôt. Et puis effectivement, en arrivant ici, ça s'est tout de suite révélé être assez original. L'avion atterrissait sur une piste quasiment en herbe. C'était un bimoteur à hélice qui mettait 4 heures entre La Réunion ici. Il y avait 3 avions par semaine maximum et 30 personnes à bord. On était accueillis par les voitures au pied même de l'avion. On sortait les valises nous-mêmes de l'avion, on les jetait dans les Mehari ou les 404. Enfin voilà, la note d'ambiance, bon, quand on mettait le pied à Mayotte, était forcément assez envoûtante. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Et puis, je suis tombé dans une équipe complètement exceptionnelle en termes de perspective de fabrication du bâtiment à Mayotte.
La base de cette équipe, c'est d'abord un travail anthropologique d'un anthropologue américain qui s'appelle John Breslar. C'est qui John Breslar et qu'est-ce qu'il fait à Mayotte ?
John Breslar a fait sa thèse à Mayotte, où il est resté plus d'un an dans les villages. Il a habité à Mzouazia pendant 6 mois, mais comme un habitant de brousse, hein, comme on dit ici.
Quand on parle de l'habitat maorais, l'unité de base, c'est ce qu'on appelle le shanza. Le shanza, c'est le cour, le parcelle, qui est toujours bien délimité par une clôture, une chicane en feuille de coco, et qui représente un système d'éléments physiques, l'élément d'habitat, et un système de relations humaines en même temps. Ce shanza est typique de l'habitat traditionnel à Mayotte. Il est organisé pour une famille nucléaire, ça veut dire un couple et ses enfants. Il comprend une case en 2 pièces, un grenier pour mettre à l'abri la nourriture et souvent les chèvres, et un auvent pour faire la cuisine, et un endroit pour se laver où les gens éménagent quelquefois une latrine. La disposition de ces éléments sur la périphérie du shanza laisse un espace central qui est utilisé comme véritable 3e pièce. Il fait chaud à Mayotte, et dans la journée, les Maorais sont dehors pour travailler, causer, s'amuser, dans le cours ou sur les terrasses.
Alors lui, il a rédigé sa thèse qui a été remarquée par le directeur de l'équipement qui arrive à l'époque et qui l'a fait imprimer d'ailleurs et qui recrute John Breslar pour participer à la mise en place d'un outil qui va s'appeler la CIM, Société Immobilière de Mayotte. Le directeur de la CIM à l'époque, il est Pierre-Yves Perrault. Lui, il est géographe, démographe. Ça a aussi du sens. Et donc, il commence à constituer une équipe où, évidemment, quand on est géographe, démographe, ethnologue, on peut imaginer la dimension du, non pas du social, mais de l'humain dans leur programmation.
À Mayotte, tout le monde fait partie d'un village. Un village est premièrement une unité spirituelle et morale. Les Maorais sont musulmans, d'origine arabe, d'Afrique de l'Est et de Madagascar. Un village est aussi une unité sociale composée de nombreuses familles qui ont toutes les droits et les obligations en leur sein. Pour la construction, par exemple, chaque femme quand elle se marie, a droit d'avoir une parcelle et une case à deux pièces. Chaque homme a l'obligation de fournir à chacune de ses filles cette parcelle et cette case. Ces familles diverses sont liées dans un tissu très solide par les groupes d'âge qui maintient la division garçon-fille, homme-femme. C'est surtout au moment d'activités collectives qui exigent une entraide que ces groupes d'âge se mobilisent pour les travaux agricoles, pour l'organisation des fêtes et aussi pour la construction. Aucune de ces relations ne fait appel à des transactions monétaires.
Attila Chessial, vous êtes architecte. Où est-ce qu'on se trouve là ?
On se trouve à Chiconi, dans un petit restaurant que j'aime bien qui s'appelle L'Escale, qui domine Chiconi, qui est un peu plus récent que le village. Le village a ancien, c'est tout en bas là.
C'est un peu ici que toute votre aventure d'architecte a commencé ?
Oui, certainement, parce que je dirais que c'est la première leçon que j'ai reçue. C'est celle que j'ai appelée la leçon de Chiconi. La leçon de Chiconi, c'est le maire de Chiconi qui me la donne, c'est-à-dire qu'il veut faire des aménagements dans son village. Il n'a pas d'argent, il a les gens de son village, et il va s'organiser pour réaliser des travaux à partir de ses petits moyens. Et il m'a demandé son aide pour réaliser ces travaux qui étaient des cheminements qui permettaient de circuler de maison en maison sans glisser quand il pleut, sans se casser la gueule. Et ça a été assez extraordinaire parce que c'était une animation véritable. Les gens bossaient pour le maire en sachant qu'ils n'étaient pas payés. Ils étaient en compétition pour savoir quels seraient les premiers qui arriveraient en bas. Et quand on est arrivé en bas, il me dit... Vous pouvez encore nous aider, il faut faire le pont. Je dis non, je ne peux pas faire le pont. Le pont, c'est la direction de l'équipement. Ils n'aiment pas beaucoup qu'on monte sur leurs prérogatives. Il me dit très bien, ok, je vous rappellerai. Et quelques jours après, il me rappelle en me disant, on fait une petite fête, venez. Donc je viens et qu'est-ce que je vois ? Le pont. Le pont fait par un entrepreneur du village. Harry Fadjati. Et Harry Fadjati a donc réalisé des piles de part et d'autre de la rivière. Elles sont toujours là. Sur ces piles, il a posé des aciers qu'il avait récupérés dans les anciennes sucreries. Là-dessus, il a posé des cailloux. Sur ces cailloux, il a posé des plus petits cailloux encore. Et puis, il a fini par faire un platelage de ciment. Et le pont était fait. Tout ça sans autorisation, sans plan, sans quoi que ce soit. Le pont, il est toujours là. Voilà, et je me suis dit, tiens, ça c'est une leçon. Joyeuse en plus, parce que les gens étaient très heureux d'avoir réussi tout ce qu'ils avaient réussi.
Alors cette leçon de Chiconi, vous la digérez dans un contexte particulier. Un directeur de l'équipement dynamique, une équipe de jeunes architectes... dont vous faites partie, avec notamment Vincent Liétard,
à la Cime, oui.
Où il s'agit de tout faire pour transformer un habitat informel, voire insalubre, en quelque chose d'habitable, et puis équiper l'île d'équipements publics qui vient de voter son attachement à la France.
Oui, c'est ça. Comment faire avec les moyens du bord ? Alors, on a un livre qu'on a un peu oublié, qui est le livre d'Hassan Fathi qui s'appelle « Construire avec le peuple » et qui est un peu notre Bible commune. Voilà.
Quand on lit Hassan Fathi, un architecte égyptien.
C'est ça, qui construit à Gourna des villages avec, en Égypte. Voilà. Et quand il fait ça, le plus intéressant, c'est le deuxième tome qui est très technique et qui montre comment il réalise tout ça. Et moi, c'est le moment où je fais venir à Mayotte les compagnons du devoir que je connaissais, avec qui je travaillais déjà en métropole. Alors pourquoi je travaillais avec eux ? Tout simplement parce qu'après 11 ans d'études en école d'archi, je ne savais rien faire de mes mains. Mais avec les compagnons, j'apprenais à faire de la charpente. Voilà. Et donc, on a fait venir les compagnons du devoir. Ça a été accepté par le directeur de l'équipement de l'époque. Et on a pu mettre en œuvre une philosophie de construire autrement en utilisant les ressources locales.
À l'époque, la société était très peu monétarisée, hein, mais vraiment. Et en fait, pour résumer le principe du programme, c'est que il ne s'agissait pas de modifier l'habitat traditionnel en soi. La Cassim, elle s'implante dans le Shenzhen dont on parlait tout à l'heure, sans modifier la structure ni du Shenzhen ni celle du quartier.
Alors, on est à la croisée des décennies 70 et 80. Vous êtes jeune. C'est quoi l'esprit qui vous anime à cette époque ?
Bon, moi, j'ai en quelque sorte beaucoup de chance. J'ai passé mon diplôme d'architecte quelques semaines avant de venir ici. Donc, quand je dis que j'ai beaucoup de chance, c'est que je savais à peu près à rien faire. On apprend à l'école à faire des... Si on parle de logement, un architecte de ma génération, il a des programmes de 400 logements, des grands ensembles, quoi. Ça dessine des grandes barres, quoi. C'est ça la réussite de l'architecte. Et ici, j'arrive ici, on me dit, voilà, on va s'intéresser à des cases de deux pièces qui font 40 mètres carrés. Mais c'est vraiment tout à fait passionnant, parce que là, on a en fait le démarrage d'un programme, le démarrage d'une filière, le démarrage d'une formation des artisans, enfin, c'est tout un ensemble.
Donc l'esprit de l'architecte égyptien Hassan Fathy, construire pour le peuple, par le peuple, comment ça se matérialise? C'est-à-dire que vous faites venir des compagnons du Devoir et du Tour de France, des instituts de formation sont créés, les habitants participent à la fabrication des cases.
Il faut absolument donner du temps à cette démarche. On peut pas, c'est pas un coup, c'est pas l'urgence, c'est pas un coup au sens COIP. C'est pas une mission d'experts qui viennent pendant 6 mois, qui trouvent des solutions, qui les laissent derrière eux. Il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre. Non, là, c'est un travail presque d'artisan. Quand je parle de, je suis architecte. Ça, c'est un accessoire, mais je suis architecte artisan. J'apprends à construire avec les artisans. J'apprends à dessiner ce que savent faire les artisans, par exemple. Je ne dessine pas des choses qui sont hors de propos pour la fabrication, soit par les matériaux locaux, soit par les artisans locaux, qui vont évoluer, et moi du coup aussi, avec mon dessin, mes conceptions, et celles de mon équipe.
À quoi elle ressemble, cette Cassim ?
C'est une case qui est toute simple, qui a une toiture avec un assez large débord, qui la protège de la pluie, mais aussi de l'ensoleillement. C'est une case qui est hors d'eau. Les constructions traditionnelles n'ont pas de soubassement. Là, nous, on apporte des soubassements qui sont au moins à 30 cm de haut pour sortir les pieds de l'eau. Vous avez vu comment il peut pleuvoir ici. La Cassim, moi, quand on me dit à quoi elle ressemble, moi, j'y vois tout de suite les artisans, les matériaux, etc., plus que la forme. C'est tout ce qu'elle contient. Il y avait un élu de Sada qui disait « Cette petite Cassim porte beaucoup ». C'est une image que j'aimais bien et que je répète encore aujourd'hui. Et... moi, je crois que ça a été la marque avant tout d'un respect du mode traditionnel de l'habitat. Et elle a beaucoup évolué à la mesure des attentes, ou plutôt des revendications des habitants.
Alors, je m'appelle Fayaduddin Manli. J'ai bientôt 65 ans. Je suis né à Chikoni, là où on est.
À quoi ressemblait Chikoni dans les années 60 lorsque vous y étiez enfant ?
Ben, très différent de maintenant. À savoir qu'il y avait beaucoup de maisons en terre, torchies. Surtout des maisons en raffia aussi. Et Chikoni en particulier, c'est un village plein de rochers, de roches pour circuler, on gambadait au-dessus des pierres, on redescendait. Et il y avait beaucoup de cabris dans la nature, des moutons, de la volaille qui circulait dans la nature. Beaucoup d'arbres aussi, fruitiers, notamment manguiers. Et c'était très paisible et frais. Ici, nous sommes malgaches. Nous parlons malgache, on ne parle pas le chimaoré. Mais c'est aussi de confession musulmane. Donc, il y a des règles, il y a certains principes que Un ethnologue peut le comprendre, un sociologue peut le comprendre. Donc c'est ce qui a fait que le projet n'a pas été subi. Voilà l'avantage de cette démarche qui a commencé par cette approche ethno-sociologique de John Braslar.
Gégé.
Ah, je m'a fait.
Barzach.
Je m'a tout.
Barzalagon.
Ah, fait, alhamdoulilah.
À cause des variations des lieux de construction, de la nature de parcelles, des apports personnels et de l'accès aux artisans, les candidats de construction sont tous les cas particuliers qui nécessitent des dossiers individuels. Cette femme, Asanati, qui possède déjà un terrain, a un apport personnel en nature, parpaing, sable et moellon. Aussi, elle a des artisans disponibles pour construire sa case. Après s'être mis d'accord sur un plan de case qui s'adapte bien à son terrain et ses moyens financiers, on lui demande de revenir avec son maçon, son charpentier et son menuisier pour discuter ensemble la nature des travaux et les modalités de paiement. Dès que les contrats seront passés et les autres formalités achevées, la construction pourra commencer.
C'est une démarche aussi parce que il n'y avait pas beaucoup de professionnels de différents métiers du bâtiment. Donc la maçonnerie, la charpente, la menuiserie, et puis des équipements modernes arrivés, l'électricité et la plomberie. Alors cette démarche a privilégié la formation professionnelle. Je suis allé apprendre la maçonnerie avec des jeunes de mon village parce qu'on avait une association qui se posait des questions sur l'avenir de ces jeunes qui s'intéressaient beaucoup au football. Mais ayant été un responsable du mouvement de la jeunesse, certains parents m'approchaient pour me dire « Tel enfant, depuis qu'il joue au ballon, il ne va plus à l'école coranique, il n'assume plus les travaux champêtres. » Le devoir de l'enfant, beaucoup d'enfants ne le faisaient plus parce qu'ils allaient jouer au ballon. Donc, j'en ai parlé à mes anciens, j'en ai parlé aux notables du village. Et l'association a eu l'idée d'encourager la formation professionnelle.
Et à partir de là, que se passe-t-il ? Vous allez construire des milliers d'habitats sociaux pour les Mahorais.
Alors ça, c'est le programme de la Société Immobilière de Mayotte.
La CIM,
oui. Des jeunes ont été formés au métier. Une partie de leur formation s'est déroulée sur les chantiers, des vrais chantiers de construction, comme il y en avait dans toute l'île, encadrés, formés par les Compagnons du Devoir et du Tour de France. Cette école, ce centre de formation professionnelle, a produit une main-d'œuvre consciencieuse, c'est très important, et puis motivée, fière. Hein. Donc, tout d'un coup, pendant 2, 3, 4 ans, il y a eu ce besoin énorme qu'il fallait satisfaire. Et donc, la CIM, pour ses projets, savait qu'il y avait une centrale d'achat qui était à la Moussada, et puis des jeunes en formation qui sortiraient avec de bonnes connaissances dans les métiers. C'est cet ensemble-là de ces trois outils qui ont fait que je vous ai parlé de la démarche de Mayotte pour faire face à ce défi de l'habitat.
Alors, il faut construire pour le peuple, on l'a vu, avec tenter de le comprendre,
oui.
Mais ça doit être construit par le peuple.
Oui, ce n'était pas gratuit. Le bénéficiaire de l'habitat social contribuait. Il y avait la partie financière, mais il y avait la partie amener l'eau. Vous imaginez construire là-bas, en hauteur, la route, même celle-ci, n'existe pas. Donc, c'est à dos d'homme que tout se transportent dans les hauteurs. Donc, les familles se mobilisaient pour aider à transporter les matériaux. Et pendant ce transport, il y avait des écoles coraniques qui se mobilisaient pour venir faire l'entraide. Donc, la Moussada était un état d'esprit qui a beaucoup aidé et qui a facilité cette démarche de l'habitat dans les villages. C'est sûr que là où ça n'existait pas, quand les gens entendent que dans tel village il y a cet esprit d'entraide, ben ils apprenaient, ils faisaient la même chose.
Alors, à quoi ressemble-t-elle cette case cime ?
C'est une case à deux pièces qui a pris la formule, l'architecture des maisons traditionnelles, deux pièces, en bloc de terre comprimé, la BTC, et puis par la suite, bien sûr, il y a ceux qui étaient critiques, qui disaient oui, comment la France vient à Mayotte pour nous construire des maisons, pourquoi ils nous construisent des maisons en terre. Mais quand ils comparaient avec les maisons traditionnelles, c'était des maisons costauds.
Alors vous parlez depuis tout à l'heure de la brique de terre compressée. C'est une révolution ici, la brique de terre compressée.
C'est une révolution. C'est une grande amélioration. Rien que par la forme et puis par la pose. On avait quand même des murs droits.
D'où elle vient cette brique de terre compressée? Où est-ce qu'elle a été inventée?
C'est un spécialiste d'Amérique du Sud. J'oublie le pays exact. Peut-être le Chili ou le Pérou, Ramirez, un ingénieur qui a imaginé, qui a testé, qui a inventé la presse. C'est même pour ça que la presse, telle qu'on avait à Mayotte, ça s'appelait presse terstaram. La presse terstaram. Bon, tersta, je suppose, c'est la terre, mais le ram là, c'est le nom de cet ingénieur qui a fabriqué la presse de façon moderne, donc utilisable. On sortait seulement un bloc. Mais à Mayotte, il y a eu ce côté ethno-sociaux avec John Braslar. Mais on a eu les partenaires du Centre international de la construction en terre, le cratère de Grenoble. C'est le cratère, c'est un centre de renommée internationale. C'est le centre qui a le plus travaillé pour la modernisation du bloc de terre comprimée et de la terre en général. La démarche à Mayotte a privilégié l'emploi des ressources locales et une technique qui n'était pas compliquée à mettre en œuvre. La terre, elle est sous notre pied, là. Il est gênant quand il est mouillé, ça donne de la boue. Quand elle est sèche, c'est de la poussière. Mais elle a ses bienfaits. Non seulement elle nous nourrit, mais aussi elle nous héberge.
Elle nous protège.
Donc, c'était une grande intelligence. Mayotte ne l'a pas inventée, mais Mayotte l'a modernisée. Parce que la brique de 14 a été reconnu par le monde scientifique comme étant un matériau fiable. Et puis, comme ça a été utilisé pour des bâtiments publics aussi, c'est pour ça que la brique a été certifiée avant beaucoup dans le monde. Cette fameuse norme dite XP, P13901, ça c'est la marque de cette brique de Mayotte. C'est une des premières normes, pour ne pas dire la première, nationale concernant la terre, et puis nationale française, reconnue en Europe, ensuite diffusée dans d'autres pays au monde.
On entend derrière nous un bruit caractéristique d'une presse de briques de terre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le processus de fabrication?
Oui, en fait, c'est un mélange. Hein. On reste toujours sur du recyclage de
Madi en Boudi,
de terre. issue du terrassement.
Gérant de la société Terre et Eau.
On a la chaîne qui est là, la chaîne de production.
Fabricant de briques de terre.
Qui commence par le broyeur, on broye la terre. Et puis il revient sur les trémies. Et une fois sur les trémies, elle est acheminée par des tapis de transfert jusqu'au malaxeur. C'est là où toute la magie s'opère. Donc en termes de pourcentage, de toute façon, ce n'est pas secret. Hein. C'est 60% de terre, 30% de sable et moins de 10% de ciment. Et une fois le mélange est fait, avec un peu d'eau, vraiment, c'est quasiment une vaporisation d'eau sur la terre. La presse, c'est là où, tellement c'est intense, enfin c'est fort la compression, que l'humidité, elle joue son rôle de compacter la terre. Donc du coup, le bruit que vous entendez là, ça c'est la presse manuelle. Donc ça sort pièce par pièce. Quoi.
Et là, elle est terminée.
Là, elle est terminée. Une fois qu'elle est faite, rangée sur palette. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la palette, il y a les briques qui ne sont pas collées. Pour justement qu'il y ait un passage d'air pour provoquer cette séchage naturelle sans autant le forcer.
Quelles sont les vertus de la brique de terre ?
Bah, sur la brique de terre, on a le côté à la fois environnemental, hein, c'est parce que c'est quand même du recyclage, mais derrière ça, on a l'isolation phonique, thermique. Quand on est à l'intérieur d'un bâtiment où c'est fait en brique, on sent vraiment que la clim, elle est vraiment pas nécessaire.
Pourquoi la BTC a disparu un temps au profit du béton ?
C'est la vitesse de construction. On sait qu'aujourd'hui, construire en parpaing, ça ne demande pas forcément beaucoup d'esthétique. Et on sait qu'à la fin, ni de savoir-faire, on sait qu'à la fin, il y aura du crépissage par-dessus. Donc, une espèce de cache-misère qui vient tout cacher ce qu'il y a en dessous. Mais la brique, là, c'est différent. La brique, il faut qu'elle reste nue. Il faut qu'on la voit telle comme elle est. Donc, ça demande quand même beaucoup de soins et il faut le poser avec beaucoup de délicatesse. Dès le départ, depuis qu'on démarre la brique, il faut assurer que tout est à niveau, calpiner, faire un calpinage pour savoir exactement comment on finit avec la brique en haut parce qu'il faut toujours qu'elle soit pleine en haut. Donc c'est un métier d'art, c'est un plaisir. Pour faire de la brique, il faut aimer la terre et aimer la brique.
Donc pour ça, il faut des gens compétents. C'était un des paris qui avait été fait à la fin des années 70, début des années 80, dans l'aventure des CASSIM dont on a parlé, c'était qu'à la fois il fallait former des artisans. Et aujourd'hui, la plupart des personnes qui construisent les maisons à Mayotte, ce ne sont pas des Mahorais.
Non, c'est, la plupart, ce n'est pas des Mahorais.
C'est qui ?
C'est nos confrères qui sont à côté. Il y a les Comoriens, les Anjouanais.
En l'occurrence, ils ne sont pas à côté, ils sont ici.
Oui, là, ils sont là, hein, ils sont là, donc c'est bien eux qui, la plupart c'est eux qui construisent. D'ailleurs, même nos ouvriers, hein, moi je te dis sincèrement, quasiment tous mes ouvriers, ils sont issus des Comores. Mais voilà, ils ont leurs papiers et puis ils ont le droit de travailler. Donc il faut bien qu'ils mangent, hein. Pour ça il faut travailler. Et quand ils arrivent souvent, pas forcément qu'ils ont une formation de pose de briques, on est mené à les former. On fait des petits ateliers pour justement s'assurer qu'on ait quand même cette qualité de pose qui est demandée, parce que c'est très exigeant de l'autre côté au niveau des archis. Du coup, ça demande quand même beaucoup d'attention et de formation de s'assurer qu'on ait quand même cette qualité de travail exigée, quoi.
Mais maintenant, on est à une sorte de nouvel intérêt, à la fois des architectes, et sans eux, ça serait impossible, une nouvelle génération, du rectorat ou de ses maîtrises d'ouvrage, de la CIM qui redécouvre cette filière brique. Ils construisent des collèges, ils font des efforts pour construire en brique. J'ai vu des projets à Kawini où il y a des mètres et des mètres carrés de briques. Et sans eux, ça serait sans doute difficile d'imaginer la relance d'une filière qui est une réalité maintenant. L'année dernière, il s'est posé plus d'1 million de briques sur l'île et ça profite à des producteurs locaux. Ça va peut-être même un peu trop vite d'ailleurs à certains égards, mais il y a une vraie relance grâce à cette nouvelle génération. Et ça, c'est si les logements de la CIM, même locatifs sociaux, si des lycées, si des bâtiments publics, bibliothèques, maisons des jeunes se font avec de la brique, ça existe maintenant, alors ça participe à la consolidation, sans jeu de mots, de la filière des matériaux locaux. Et ça va plus loin que la brique, d'ailleurs. Il y a aussi le bambou, il y a une association qui est bien mobilisée là-dessus.
Oui, le BAM, avec notamment Babali.
C'est ça.
À l'époque, on va à la campagne, il n'y avait pas de récipient pour mettre de l'eau. Donc, tu prends un nœud de bambou, en fait, un tournus, tu perces, tu nettoies bien et tu fais comme un gourde, tu amènes de l'eau. Tu fais ça jusqu'à, par exemple, la fin d'utilisation. Tu le laisses au pied d'un arbre et l'année prochaine, ça pousse.
Ali Tuaibou Ali dit Babali Fundi, spécialiste en bambou.
Actuellement, on ne peut pas trop utiliser parce que on n'a pas encore les ATEX, les autorisations, les calculs qui disent que le bambou il peut résister au feu pendant combien de temps. Il peut résister aux champignons, il peut résister à telle charge. Les bureaux d'études ou les gens qui traitent le bambou, ils ne veulent pas ça parce qu'avec leur appareil, ils n'arrivent pas à contrôler le produit. Donc c'est ça leur problème. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas confiance. Si on veut que ça soit efficace, il faut qu'on construise sur les lieux publics pour que les gens qui passent par là, le jour qu'ils vont retourner, ils vont « Ah, ça fait déjà 10 ans, le truc est toujours là. » Ah, parce que ben, la plupart des élus, ce sont des élus qui disent « Le bambou s'est passé, je ne veux plus entendre le bambou. » Mais moi, j'ai toujours la conviction que ça viendra. Parce que j'ai commencé à faire un petit faré.
Faré, c'est un carbet, ouais, comme on l'appelle en Guyane. Ouais. Ici, on l'appelle faré. Voilà.
C'est un abri
contre le soleil et la pluie.
Et quand j'avais fait ça, tout le monde disait que est-ce que ça va traverser la saison de pluie? Est-ce que ça ne va pas pourrir? Il a traversé la saison de pluie, il a traversé la saison sèche. Et là, ça fait déjà 4 ans, il est là, il a traversé Chido. Quand je suis retourné pour voir l'état du lieu, tous les gens qui me voyaient, ils disaient « Ah, moi je pensais que le bambou c'est de légumes. Hein. Qu'est-ce que tu as fait sur le bambou? Comment tu l'as traité ?» En fait, les gens commençaient à poser des questions, à voulaient savoir « Est-ce que j'ai mis des trucs spéciaux? Comment j'ai fixé? Comment les assemblages ?» Mais j'ai dit « C'est pas miracle, quand tu regardes là, tu vois, le bambou ça tient. En fait, le bambou c'est... Il faut mettre un grand chapeau. S'il n'est pas mouillé, il peut aller très longtemps, plus de 50 ans.
Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans le bambou?
J'aime le matériel bambou parce qu'il est très souple et il est très dur aussi. Et au niveau des ressources, j'aime le bambou parce que le bambou, c'est un filtre naturel, c'est un poumon. C'est parmi des plantes qui filtrent le gaz carbonique plus que le bois. Et ils filtrent l'eau. C'est pour ça que les ancêtres ils plantaient soit au bord des rivières pour un peu filtrer toutes les impuretés de l'eau. Ils les captent, ils les prennent. J'aime ça. Et puis, quand tu plantes des bambous, au bout de 12 ans, tu peux déjà commencer à récolter et... À partir de 12 ans, tous les ans, tu en récoltes. Donc, je peux dire que c'est un matériau que, dans le quotidien, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des gobelets, on peut faire des assiettes, on peut faire des pots de fleurs, on peut faire des instruments de musique. Tu vois, les femmes qui tapent là, les mbiwi, donc on peut faire aussi des instruments de musique.
Donc, voilà les sons des mbiwi. Donc, il y a une chanson que je chantais avec les élèves d'école. Cette chanson, il s'appelle l'Mbiwi. Ça, c'est l'Mbiwi, c'est un bambou. L'Mbiwi, l'Mbiwi, avec un petit bout de bambou. Je vais tout faire craquer, du morceau, du bois et ma voix. Tu feras balancer. Ta pierre ne pourra s'arrêter, tu pourras
t'envoler. Écoute, écoute, les sons du petit bout, du babou, c'est la musique de Miwi.
Donc aujourd'hui, votre combat, si on peut l'appeler comme tel, c'est que des normes soient créées pour permettre une utilisation régulière dans des bâtiments publics pour que ça devienne une norme et que tout le monde l'utilise.
Il y a deux combats. Un combat, c'est sur ça. Le deuxième combat, c'est que les habitants et les élus de Mayotte nous donnent la confiance et nous donnent l'espoir de la place pour expérimenter. Comme ça, avec le retour d'expérience, peut-être au bout de 10 ans, au bout de je ne sais pas combien, tout le monde va se rendre compte si c'est bon ou pas. Parce qu'avec le BRIC, ça a été comme ça. On a fait sans normes, sans quoi, jusqu'au le jour qu'ils disent stop, ils ont stoppé. Mais après des années, ils ont revenu, ils ont vu, ah, avec tous les tremblements de terre, c'est toujours là le truc. Ah, il faut creuser, il faut chercher pourquoi. Donc, avec les bambous, il faut faire pareil pour qu'on expérimente, on regarde après quel est leur défaut, comment on peut changer, comment on peut évoluer.
Du bambou, c'est la musique de Miwi.
Moi, je suis en fin de carrière, je pourrais abondamment critiquer le système classique ou conventionnel, comme je l'appelle, des mises en concurrence, des concours d'architectes, etc. J'ai jamais participé à un seul concours. C'est à la fois une facilité pour, évidemment. Et ouais, encore une fois, je suis architecte artisan. Je suis pas architecte génial ou artiste. Il y a des lycées et des collèges qui ont été produits il y a 25 ans, 30 ans, qui sont des vraies catastrophes, à la fois tropicales, en termes de climatisation, des espèces d'arrogance aussi, par rapport aux villages traditionnels, se mettant en hégémonie à la fois géographique, en haut d'une colline. Enfin, je crois qu'il y a eu des heures, mais si vous associez concours, mise en concurrence, technique de construction importée, pas forcément mauvaise, mais tellement pas d'ici, et urgence. Parce que alors là, le mot urgence, il n'y a pas eu besoin du cyclone pour entendre ce mot à tous les coins de rue. Et ça, c'est l'urgence, je pense que c'est un gros paramètre de la bêtise. Quoi qu'il en soit, hein, je ne pense pas que ça puisse être limité au secteur du bâtiment. Dès qu'on travaille dans l'urgence absolue, bon, il y a des moments d'accord, le lendemain d'un cyclone. Mais on ne peut pas travailler dans l'urgence pendant 10 ans. Il faut travailler avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec une notion du temps et donner du temps aux artisans, au mode de production, à une intelligence, on pourrait dire ça à un mot, une intelligence de son environnement social ou productif.
Comment se fait-il que, banalement, très rapidement, à l'indifférence de tout le monde, la brique est dévalorisée, la société immobilière de Mayotte aussi a abandonné sa politique de soutien à la filière, alors que je suis sûr qu'ils ont fait beaucoup d'économies en climatiseurs. Mais si on avait cet esprit de développement durable, la terre de la brique, la brique elle-même, vous le repassez à la machine, des broyeurs, il redevient utilisable. On refait des briques avec. C'est un matériau recyclable. Mais Mayotte, bon, il mettra du temps. Vous voyez tout ça, c'est pas seulement, on dirait, une aberration.
Donc tout ça, ce sont ces maisons en parpaing.
C'est un crime contre l'humanité, ça. Parce que les dégâts causés par les cyclones Chido, je vous assure qu'on a identifié des maisons en briques construites à l'époque, je veux dire, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ni la toiture, ni les murs n'ont pas été endommagés par le cyclone. Il y a certaines satisfactions dans la tenue.
Ngami, Jamania Hafa, Upepodo Anibalia.
Donc
pepodo anibalia.
Le bâtiment, ce n'est pas de l'économie importée. Ça ne devrait pas être de l'économie importée. Ça doit être de l'économie locale. Le développement local, c'est ça. Le développement local, on emploie les ressources locales, qu'elles soient humaines, qu'elles soient matériaux, qu'elles soient sociologiques. C'est ça qui est important. Donc le vrai sujet reste comment on construit avec la population locale, comment on continue de la former. Et je trouve que Chido est une bonne...
Chido, c'est le cyclone survenu le 14 décembre 2024.
Parce qu'il vient de révéler qu'on avait largement perdu en savoir-faire, mais même très fortement. C'est-à-dire qu'on a perdu le savoir-faire de la charpente. On n'a pas été foutu ces dernières années de faire un toit à quatre pentes qui résiste. Ça a l'air de rien, mais c'est normalement un toit à quatre pentes, ça doit tenir le choc. Et ils n'ont pas tenu le choc. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas construire en béton correctement, on ne sait pas construire en bois correctement, on a besoin de réapprendre. Voilà. Donc, on s'attelle à ça. Là. Comment réapprendre ?
Moi, je suis... le cyclone qui a marqué tous les esprits, et marquera longtemps les esprits, peut-être que ça a disparu des médias nationaux, mais à Mayotte, ça va rester un moment marquant. Et je pense que derrière la catastrophe naturelle ou humaine, parce qu'il n'y a pas eu que des dégâts matériels, mais il y a une opportunité là à retrouver un peu de sens. Je souffle en même temps avec un petit soupir de désespoir. Mais j'aimerais bien que la politique annoncée soit, j'allais dire, bienveillante. En tout cas, qu'elle ait une forme d'acuité sur les forces mahoraises. Il est de bon ton de critiquer les logements modulaires et tout ce qui va venir préfabriqué, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à critiquer aussi. Mais je sais que ça peut avoir une utilité. Mais ne jamais ignorer la capacité que Mayotte a à faire. Et ça, c'est l'artisan, les matériaux, etc. Parfois, je critique des solutions géotrouve-tout, comme je les appelle, des architectes, parce qu'ils parlent d'abord de l'objet, alors que qu'est-ce qu'il faut ? Après, on trouvera l'objet, c'est pas compliqué, une case de deux pièces, c'est pas compliqué. Mais voilà, oui, habitat, reconstruction maintenant, peut-être, si c'est le mot à la mode, mais développement.
Donc, ça parle de... Je dis Hazik à une amie, c'est-à-dire le travail n'a pas de fin. Hakika, gavo zinji zambwa o zipotezo wonjo. Hakika, gavo doana zinji zipotezo wonjo. Hakika, gavo toaman zinji zipotezo wonjo. Oh, viva! Viva Comoro.
C'était Mayotte, dernier des départements, troisième épisode, de tôles, de briques et de bambou. Un documentaire de Raphaël Kraft et David Jakuboviez.
Viva Comoro, Masoudian.
Avec Vincent Liétard, Fahadi Daroussi Tsimanda, Jabir dit Ravi, Attila Chessial, Fayadouidin Mahanli dit Faya, Madi Amboudi, Ali Toaibou Ali dit Babali. Musique originale, Abou Chiabi, Zamakolo et Hamadi Alidi dit Trio. Archive audiovisuelle, Audi, Mayotte, une expérience d'habitat de Josiane Metz et Philippe Brimaud. Mixage, Antoine Viossa. Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin.
Oh, viva, viva Comoro. Oh, viva, viva Comoro.